VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 5h30 en temps universel. Ravi de vous retrouver pour vous présenter le monde aujourd'hui en direct de Washington. Merci pour votre fidélité au micro Nanit Talani. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce mardi 22 août, ouverture du sommet des BRICS aujourd'hui en Afrique du Sud. La CEDEAO rejette l'idée d'une transition de 3 ans maximum lancée par les poutistes nigériens. Les prix des produits ont commencé à augmenter à Tombouctou, au Mali, où des djihadistes imposent depuis plusieurs jours un blocus. Des centaines de migrants éthiopiens tués par des gardes frontières saoudiens dénoncent l'ONG Human Rights Watch. Depuis le président Joe Biden en visite sur l'île de Maui à Hawaï, endeuillée par des incendies catastrophiques. Et dans environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec les nouvelles sportives et l'économie. En attendant, le journal. Le sommet des BRICS s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud. Au programme, l'expansion du bloc de pays émergents à de nouveaux membres, ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille les dirigeants du Brésil, de la Russie, d'Inde, de la Chine à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à jeudi à Johannesburg. Son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé dans la capitale économique sud-africaine ce lundi, de même que le président chinois Xi Jinping. Le premier ministre indien Narendra Modi et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov sont attendus ce matin. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine participera en visioconférence. Les pays ouest-africains opposés au coup d'État au Niger ont rejeté l'idée d'une transition de 3 ans maximum lancée par les militaires qui ont pris le pouvoir. C'est le signe qu'une sortie de crise par la voie diplomatique semble lointaine. Les précisions de John Lindon.
Une période de transition de 3 ans est une plaisanterie. La CEDEAO ne l'acceptera jamais, a affirmé Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation régionale. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible, a-t-il ajouté, réaffirmant la position ferme de la CEDEAO depuis le coup d'État du 26 juillet. Selon lui, la période de transition doit être très courte. Nous ne parlons même pas d'un an. Elle devra être beaucoup plus courte que ça, rappelant que l'option d'une action militaire n'est pas écartée. Samedi soir, le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a annoncé envisager une transition de 3 ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils. Une idée inacceptable pour la CEDEAO, qui répète depuis le coup d'État que le président renversé Mohamed Bazoum doit être libéré et réinstallé au pouvoir.
Des djihadistes imposent depuis plusieurs jours un blocus à Tombouctou, dans le nord du Mali, où les prix des produits ont commencé à augmenter. Le point avec Alexandrine Ollonian.
Tout coûte cher à Tombouctou. Les produits ne rentrent plus. Les djihadistes ont bloqué les routes. C'est vraiment difficile, a déclaré un agent de la mairie sous couvert de l'anonymat. Cet embargo fait suite à des messages diffusés début août sur les réseaux sociaux et attribué à un commandant local du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. « Nous déclarons la guerre dans la région de Tombouctou. Les camions qui viennent d'Algérie, de Mauritanie et de toute autre provenance doivent cesser toute progression au risque d'être ciblés et incendiés. » La MINUSMA vient de quitter la localité de Ber et Goundam, deux camps proches de Tombouctou, transférés aux autorités maliennes. Cette prise de contrôle a donné lieu à de tensions avec les anciens rebelles Touareg. La mission de l'ONU conserve pour l'instant un camp à Tombouctou, mais tous les casques bleus doivent quitter le Mali d'ici au 31 décembre.
Les autorités libyennes ont renvoyé dans leur pays 161 migrants nigérians, dont 75 femmes et 6 enfants, dans le cadre d'un programme de retour volontaire en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations. Nous ne pouvons pas supporter ce fardeau de l'immigration clandestine seule, sans l'aide de la communauté internationale, a affirmé le ministre de l'Intérieur du gouvernement basé dans l'ouest libyen, Imed Trabelsi, rappelant que la Libye s'oppose à l'installation de non-libyens, sauf s'ils sont étudiants ou travailleurs en règle.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les gardes-frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe en passant par sa frontière avec le Yémen de mars 2022 à juin 2023, a dénoncé Human Rights Watch. Claire Morin-Gibourg.
Dans un rapport de 73 pages, Human Rights Watch accuse des gardes saoudiens d'avoir utilisé des armes explosives et tiré à bout portant pour tuer des centaines de migrants. L'ONG a pu recueillir les témoignages de 38 Éthiopiens qui ont tenté de franchir la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite entre mars 2022 et juin 2023, ainsi que 4 parents ou amis de migrants. Les autorités saoudiennes répondent que ces informations ne reposent pas sur des sources fiables. L'ONU affirme que ce rapport est très inquiétant avec des accusations très graves, notant toutefois qu'il est difficile de confirmer ces allégations. Les États-Unis, partenaires de longue date de la monarchie du Golfe, appellent à une enquête. Des centaines de milliers d'Éthiopiens travaillent en Arabie Saoudite, empruntant parfois la route de l'Est reliant la Corne de l'Afrique au Golfe, en passant par le Yémen.
La Corée du Nord a annoncé son intention de lancer un satellite dans les prochains jours. Le soi-disant lancement de satellite par la Corée du Nord est une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui lui interdisent de développer des missiles balistiques, a réagi ce mardi la Corée du Sud, qui dénonce comme illégal le projet de son voisin. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden est arrivé hier sur l'île de Maui à Hawaï. Cette île a été endeuillée par des incendies catastrophiques et une certaine amertume y règne face à la gestion du drame par les autorités. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Accompagné de son épouse Jill, Joe Biden a survolé en hélicoptère des zones dévastées. Il doit aussi rencontrer des familles, des secouristes et des responsables locaux. L'État fédéral accompagnera les efforts de reconstruction en s'assurant que vos voix sont écoutées, que vos traditions sont respectées, a promis Biden. Nous reconstruirons comme le voudront les habitants de Maui, a ajouté le président américain, alors que la population locale s'inquiète du possible rachat de terrain sur l'île par des promoteurs désireux d'y construire des résidences onéreuses. 1 million de personnes n'ont pas encore été localisées, dont une partie pourrait venir alourdir le bilan des victimes décédées, plus de 110 personnes. Biden a nommé un coordinateur fédéral pour les travaux de reconstruction. Il s'est vu reprocher par l'opposition républicaine de ne pas s'être suffisamment exprimé publiquement sur la catastrophe. La Maison-Blanche rappelle qu'il lui a fallu à peine une heure pour déclarer le 10 août un état de catastrophe naturelle majeure à Hawaï à la demande des autorités locales. L'incendie est déjà le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis.
La Russie affirme avoir détruit un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en mer Noire, dans la zone d'installation russe de production de gaz. Les attaques tant russes qu'ukrainiennes se sont multipliées en mer Noire depuis le retrait de Moscou en juillet d'un important accord céréalier. Jeudi dernier, des navires de la flotte russe avaient été visés par une attaque ukrainienne menée avec un drone naval, selon le ministère russe de la Défense. L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, de retour au pays après 15 ans d'exil auto-imposé, doit passer 8 ans en prison pour 3 condamnations prononcées en son absence, a annoncé la Cour suprême. Le milliardaire de 74 ans, au pouvoir entre 2001 et 2006, avant d'être renversé par un coup d'État, doit être conduit en détention à Bangkok, selon le communiqué de la plus haute juridiction du pays. L'armée israélienne a annoncé avoir arrêté ce matin 2 Palestiniens soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque et ont coûté la vie à une Israélienne hier en Cisjordanie occupée. Les 2 hommes résidents de la ville d'Hébron ont été transférés en vue de leur interrogatoire par le service de sécurité intérieure, indique l'armée dans un communiqué, ajoutant que l'arme qui aurait été utilisée pour l'attaque a été remise et confisquée. Voilà pour le journal. Maintenant, la Minute Éco avec Alexandrine Ollognon.
L'intelligence artificielle est plus susceptible de créer des emplois que d'en détruire, selon une étude publiée lundi par l'ONU. La plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation. Le rapport indique que les pays à revenus élevés subiraient les effets les plus importants de l'automatisation en raison de la part importante, notamment des emplois de bureaux. Le ministère ivoirien des Transports a lancé une plateforme numérique dénommée CGI Digital qui vise la prise en charge rapide et simplifiée des demandes de traitement et de délivrance des documents administratifs du transport routier. La plateforme permettra entre autres d'authentifier en ligne les documents, actualiser les informations pour une meilleure prise en charge en agence, gérer les éventuelles amendes dans le cadre de la vidéo-verbalisation et faire des paiements en toute sécurité selon l'agence Ecofin. Des ONG appellent à des annulations de dettes de pays dépendants du pétrole. Des pays en développement se retrouvent contraints de produire toujours plus de pétrole et gaz pour rembourser leur emprunt aux pays riches, affirme lundi une étude d'une coalition d'ONG. Debt Justice demande aux pays développés de procéder à des annulations de dettes sans conditions économiques pour dégager des ressources budgétaires afin d'investir dans les secteurs jugés les plus nécessaires, y compris dans les énergies propres.
Passons à présent à la page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Des nouvelles des mondiaux d'athlétisme pour commencer. Fabrice Zango, sacré au triple saut.
Oui, le Burkinabé décroche son premier titre mondial au triple saut avec une marque de 17,64 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Hugues Fabrice Zango s'empare de la médaille d'or devant deux Cubains. Lázaro Martínez, médaillé d'argent avec un triple bond mesuré à 17,41 mètres, et Christian Lapolès, qui a réalisé 1 cm de moins 17,40, son record. Médaillé de bronze olympique à Tokyo, Zango est le premier athlète de son pays sacré au championnat du monde.
De son côté, Marie-Josée Talou échoue au pied du podium de la Fenley du 100 mètres.
L'Ivoirienne et la Jamaïcaine Sherika Jackson, vice-champion du monde 2022 ex aequo, avait pourtant signé le meilleur temps des demi-finales du 100 mètres, 10 secondes 79, mais en finale, avec un temps de 10,81 secondes, Marie-Josée Talou s'est classée quatrième. L'or est revenu à Shakari Richardson. Après 2 ans en retrait, la fantasque américaine s'est parée d'or mondial sur 100 mètres pour ses premiers pas en grand championnat, couloir 9. En retard sur ses rivales, Richardson a signé une fin de course canon pour les coiffer sur la ligne d'arrivée. À la clé, un chrono de 10 secondes 65, record personnel et meilleure performance de la saison égalée. Elle devance deux Jamaïcaines déjà médaillées l'été dernier, Sherika Jackson et la tenante du titre mondial, Chelly-Ann Fraser-Pryce. Il y a 2 ans, Shakari Richardson avait été suspendu pour un contrôle positif au cannabis qui l'avait privé des Jeux de Tokyo.
L'Afrique a d'autres chances de médailles ce mardi, Yakuba.
Sur le 1500 mètres, la Kenyane Faith Kipyegon, double championne du monde et olympique de la spécialité, fera face notamment à la Néerlandaise Sifan Hassan, cabossée depuis sa chute spectaculaire près de la ligne d'arrivée du 10 000 mètres, qui lui a coûté une médaille samedi soir. Championne du monde du 1500 mètres en 2019 devant Kipyegon, Hassan a depuis perdu la main sur la distance face à sa rivale kenyane qui mène 10 à 9 dans leur confrontation et a remporté leurs 4 dernières courses communes. Pour sa part, un an après son exploit au Mondiaux de Yugin, médaille d'or et record du monde en 12 secondes 12 en demi-finale, la Nigériane Tobia Moussan lance la défense de son titre du 100 mètres haies, suspendu provisoirement en juillet pour 3 manquements à ses obligations de localisation antidopage. En moins d'un an, elle a été blanchie jeudi dernier par le tribunal disciplinaire.
Football pour terminer, Thierry Henry nommé sélectionneur des espoirs et de l'équipe de France Olympique.
L'objectif principal de l'ex-légende d'Arsenal, 46 ans, est de faire briller les Français au JO de Paris en 2024. Thierry Henry succède à Sylvain Ripoll. L'ancien attaquant, 51 buts en 123 sélections en bleu, a connu une immense carrière de joueur, mais sa reconversion en tant qu'entraîneur principal a été beaucoup moins réussie jusqu'ici. Sa première expérience à Monaco n'a duré que 3 mois et demi entre octobre 2018 et janvier 2019. Il a ensuite été nommé à la tête de l'Impact Montréal en MLS en novembre 2019, mais il finira par démissionner en février 2021 sans résultat probant. Il a aussi été à 2 reprises l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de Belgique entre 2016 et 2018 et de 2021 à 2022.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Maintenant, passons à notre section magazine. Une période de transition de 3 ans est inacceptable au Niger, a affirmé Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO. Cette organisation répète que le président Mohamed Bazoum doit être réinstallé au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Idriss Fall a joint à Niamey Ousseini Issa du journal L'Enquêteur, doyen de la presse au Niger.
Ce qui va se passer, c'est qu'il ne va rien se passer véritablement. Pour intervenir militairement au Niger, il faut nécessairement une autorisation commandée du Conseil de sécurité des Nations Unies et j'ai doute fort qu'ils puissent disposer de cette autorisation-là qui puisse leur permettre de venir intervenir au Niger, qui est quand même un pays souverain, le Mali et le Burkina Faso, et qui ont été très clairs en cas d'agression contre le Niger, que la CEDEAO considère que c'est une guerre déclarée au Mali et au Burkina Faso. Également la Guinée qui est solidaire vis-à-vis de la position du Niger. Alors, ce que la CEDEAO cherche à faire, parce que ici, en tout cas au sein de l'opinion, tout le monde a compris que la CEDEAO, c'est aujourd'hui un instrument qui est manipulé par la France, par Macron, à cause des intérêts français. La France ne veut pas perdre le Niger après avoir perdu déjà le Mali et le Burkina Faso. Alors, il faut mettre la barre très haut, pensant pouvoir amener les populations à se retourner contre la junte qui est actuellement au pouvoir. Le régime qui vient d'être chassé du pouvoir, c'est un régime qui ne tenait pas compte des aspirations du peuple, qui était à l'encontre des aspirations du peuple à la limite. Et c'était un ouf de soulagement. Et c'est partant de ces considérations que les populations ont décidé de soutenir massivement. Et c'est un soutien quasi quotidien, tous les jours, y compris dans des petits hameaux, des gens organisent des manifestations pour dire « Nous sommes d'accord avec votre arrivée au pouvoir. Il faut qu'on balaye cette classe politique ou du moins ce régime-là. »
Est-ce que vous pensez qu'une opération militaire permettra de remettre Mohamed Bazoum au pouvoir?
C'est que la CEDEAO, ils sont dehors. C'est nous qui vivons dans le pays. C'est nous qui savons ce que nous vivons dans le pays. C'est nous qui souffrons dans le pays. Pendant 12 ans, la CEDEAO était où? Quand on tuait des populations dans les villages, dans les hameaux de ce pays, aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est qu'il y a des populations, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas pu cultiver leurs champs. C'est grâce à ça qu'ils vivent. Alors, quand la CEDEAO va venir vouloir imposer et libérer, comme ils disent, le Bazoum et l'imposer, le Bazoum va diriger quelle population, quel peuple, une population qui est là, qui dit on est d'accord avec ce qui s'est produit. On est en train de manifester qu'on est d'accord. Alors, quand vous allez venir par la force, et ce qui ne va pas être une promenade de santé, comme l'a dit le général Tchani, les pays aujourd'hui, même au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui sont désolidarisés de la position de violence que veut exercer la CEDEAO sur le Niger. Ça ne marche pas. Ils sont 4 ou 5 pays. Et ils connaissent un peu, l'armée nigérienne n'est pas une armée de parade, c'est une armée qui est combattante. Et ce que disent les responsables de la junte, c'est que ça va se faire dans un même temps, ça va se faire dans un contexte, ça va embraser toute la sous-région.
C'était notre confrère Ousseini Issa du journal L'Enquêteur et doyen de la presse au Niger. Au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes bat de l'aile avec la multiplication des attaques terroristes. L'arrivée massive des déplacés dans les villes a mis plus de pression sur les centres de santé et les médicaments ne suffisent plus. C'est un reportage à Bobo Dioulasso de Alidou et Traougo.
Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale du secteur 4. En cette période d'hivernage, avec l'explosion des cas de paludisme chez les enfants, il y a une longue file d'attente. Des femmes sont assises sur des bancs avec des enfants visiblement souffrants. L'une après l'autre, elles entrent dans la salle de consultation avec leurs enfants en comptant sur la gratuité des soins. Mais très vite, elles sont frappées par un sentiment de déception.
Sanata Kabore, carnet de santé et ordonnance médicale en main lance.
Après la consultation, si on nous donne les ordonnances, si on rentre dans les dépôts, des fois il y a quelques éléments des produits qui sont en manque. Il faudra qu'on parte chercher ça à la pharmacie. C'est chlore ou soit paracétamol seulement qu'on nous donne.
La césarienne est normalement gratuite, mais Ousmane Sondo a dû payer pour son épouse. Il nous explique.
Ma femme devait subir une césarienne, mais en tout cas moi, j'ai tout payé par manque de produits gratuits.
Cette situation est due à l'insécurité grandissante, justifie le directeur régional de la santé, Rodrigue Diao.
Et vous savez que la crise sécuritaire a fait de telle sorte que la question même de transport des médicaments d'une zone A vers une zone B, ça vous savez qu'aujourd'hui, on a des centres de santé qui n'arrivent pas à être approvisionnés comme il se doit. Donc, quand vous prenez ne serait-ce que le contexte sécuritaire, vous êtes d'accord avec moi qu'une grande partie de ces populations qui sont dans les zones touchées par l'insécurité ne peuvent pas avoir une permanence en termes de disponibilité des médicaments.
Le docteur Diao, par ailleurs directeur régional de la santé, prévient les populations que la situation pourrait encore être plus dur.
Je peux véritablement dire avec vous que la question économique actuelle, la question sécuritaire actuelle va certainement entraîner encore plus de plaintes des populations par rapport à la disponibilité des médicaments au niveau de nos centres de santé de façon globale et en particulier pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes.
D'autres raisons expliquent la situation. Nundi Salia Kasamba, président du comité de gestion des centres de santé et de promotion sociale.
Le manque de médicaments parce que le gouvernement doit donner l'argent aux CSPS parce qu'on donne les médicaments cadeaux. Si les cadeaux, la CSPS ne rembourse pas, on va avoir des problèmes parce qu'on ne peut pas payer encore parce qu'il n'y a pas l'argent. Il y a des CSPS qui doivent 80 millions, 60 millions, 200 millions. Bon, ça dépend quoi. Si le gouvernement paye l'argent là, on peut payer les médicaments.
Après la propagation des cas de paludisme, c'est la croix et la bannière pour de nombreuses femmes déplacées qui voient leur enfant mourir faute de soins. Alidou Ouedraogo, Bobo Dulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Gouvernance migratoire, enjeux et perspectives, c'est le thème des états généraux de la migration et du cadre de concertation des Maliens de l'extérieur. Cette rencontre a réuni pendant 3 jours à Bamako, la capitale malienne, la diaspora et l'ensemble des acteurs concernés par les questions migratoires. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoku.
Les états généraux de la migration, une des recommandations des Assises nationales de la Refondation, devait permettre aux acteurs institutionnels et opérationnels de discuter des différentes thématiques qui concernent la gestion de la migration. Les centaines de délégués venus de tous les continents ont saisi l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils font face dans leur pays d'accueil et aussi parler de leurs attentes. Mamadou Lamine Ban, chargé des affaires sociales et des questions migratoires au sein du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur.
Nous souhaitons que le problème de papier soit un mauvais souvenir pour les Maliens établis à l'extérieur, que l'accès aux documents soit dorénavant quelque chose de plus facile. Ça, c'est la première des préoccupations. La deuxième préoccupation, en ce qui concerne les Maliens établis à l'extérieur, c'est le code d'investissement, permettre aux Maliens établis à l'extérieur qui veulent investir au pays d'avoir des mécanismes plus faciles, des appuis financiers et non financiers pour pouvoir faire l'investissement au Mali.
Organisé avec la participation active de la délégation de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations, pour Pascal Rendiens, chef de mission de l'OIM au Mali, c'est une bonne chose d'associer la diaspora aux questions de développement et aux questions politiques. Il s'est surtout félicité que la question de la migration irrégulière fasse l'objet des discussions entre les acteurs en vue de trouver des réponses à une question complexe.
Ça a été rappelé en ouverture de ces états généraux. La question de la migration irrégulière est une question clé aussi qui doit trouver ses réponses, entre autres sur les échanges entre les uns et les autres, sur le fait de pouvoir trouver aussi des solutions aux causes mères de la migration et plus particulièrement de la migration irrégulière. Trouver des réponses sur la migration, franchement, je crois que c'est toujours très très complexe. Par contre, avoir un dialogue, pouvoir avancer petit pas par petit pas, ça, c'est la manière dont on va pouvoir faire évoluer les politiques, les interventions sur le terrain, aussi les états d'esprit.
Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Attayer, pour une migration sûre et bénéfique pour tous les pays, a mis en avant la nécessité d'inclure les pays de départ dans les accords jusque-là signés entre les pays de transit et d'accueil.
Pour tout accord établi seulement entre les pays de transit et les pays de destination, peut relever des failles parce que l'implication des pays de départ est importante. Parce qu'aucun pays à lui seul, je l'ai rappelé, ne peut être le gendarme du monde pour empêcher la migration.
Promouvoir le partenariat entre les structures intervenant sur la question migratoire, promouvoir l'investissement productif de la diaspora, produire des données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des politiques et stratégies migratoires, renforcer les actions de lutte contre la migration irrégulière sont quelques recommandations phares issues de ces états généraux sur la migration et du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La Côte d'Ivoire possède le deuxième plus grand calculateur du continent après l'Afrique du Sud. Cet appareil d'une capacité de stockage de 1,1 pétaoctet est l'équivalent d'environ 10 000 ordinateurs réunis en un seul appareil. Plus de détails sur cette nouvelle technologie avec notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nonimo.
Dans cette salle de l'université Félix Houphouët-Boigny est installé le supercalculateur ivoirien. Cet outil technologique a permis à la Côte d'Ivoire de marquer des points dans le milieu des recherches. Plutôt que d'attendre des mois ou des années avant d'obtenir des résultats de recherche, il est désormais possible d'avoir des résultats en l'espace de quelques jours.
On était à 18% d'utilisation du système. Donc là, on a compris rapidement qu'il faut mettre en place un système de formation. Et aujourd'hui, la donne, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, de l'innovation, de la technologie, on est obligé de passer à une formation intensive.
Et les résultats sont plutôt satisfaisants depuis le lancement de cette technologie en 2018. Plusieurs opérateurs sont passés au centre pour l'utiliser. Ils n'ont plus besoin de se rendre en Afrique du Sud pour mener leurs recherches.
Beaucoup d'opérateurs qui ont visité le centre de calcul. Et effectivement, vu la puissance des calculs, ils sont satisfaits. Il y a quelques éléments à mettre en place au niveau du centre de calcul. Et ces éléments, c'est d'assurer la norme 3 tiers, 2 tiers.
La norme 2 tiers est celle qui permet au calculateur de fonctionner même en cas de délestage. Un grand groupe électrogène a été mis en place à cet effet. Ce doctorant en prévision météorologique fait partie des nombreux opérateurs qui ont utilisé le supercalculateur ivoirien.
Alors, pour voir l'importance du supercalculateur pour nous dans nos travaux, c'est déjà savoir que la résolution de telles équations à travers le modèle, il fallait se contenter de laptop comme celui-ci pour résoudre ces équations, c'est-à-dire pour trouver des solutions, on pourrait faire laisser marcher cette opération, pourrait prendre de manière continue pour le laptop plus de 3 à 4 mois pour nous renvoyer des sorties qu'on appelle des solutions à ces équations. Mais avec le supercalculateur, on peut, en l'espace de 2, 3, 4, 5 jours, avoir déjà des sorties, si vous voulez, des solutions à la résolution de ce coût d'informatique.
Le supercalculateur ivoirien fera l'objet dans les prochains mois de présentations pour les grandes start-up ivoiriennes. Des cours et des formations seront également donnés à ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur son utilisation. Ange Bijou Nomeignan pour VOA Afrique, Abidjan.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Merci à Fatouma Alimassi Kalala pour la mise en onde avec l'assistance de Charles Stone. Nanit Talani à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Excellente journée, à très bientôt.